Ouvrons le Saint-Livre, s'il vous plaît. Vous connaissez ce texte dans Paul à Timothée, où le Seigneur parle des temps de la fin. De Timothée, chapitre 3, il parle de jours difficiles, de temps difficiles. Est-ce que vous pensez que nous y sommes dans ces temps difficiles? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Il m'arrive de temps en temps de lire des prédications qui ont été écrites il y a 100 ans, 150 ans, et les pasteurs parlent de la fin. Ils parlent que c'était la corruption il y a 100 ans. Je me demande ce qu'ils diraient s'ils revenaient aujourd'hui. Mais ils disent que la terre était corrompue et pleine de violence comme du temps de Noé, et ça date de 100, 120 ans. Mais je me disais, mais s'ils venaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient? Il y a 100 ans, moi je trouve que c'était la sainteté totale. Et pour vous dire, voyez combien les choses ont dégénéré et qu'elles doivent être prises avec beaucoup de sérieux. Et tout ce qui a été prophétisé est sérieux, on en a besoin. Parfois on dit, Seigneur, j'aimerais que dans ta parole, il y ait ci et ça. Si ça y est pas, c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Ce qui est écrit, on en a besoin. De Timothée chapitre 3. Je vous exhorte d'ailleurs à prendre les mots qui vont suivre et à les méditer peut-être en famille. Je ne sais pas si vous aimez faire le culte en famille. Mais mes frères, vous qui avez des enfants petits, mes sœurs bien sûr, peut-être profitez d'un bon dictionnaire et de prendre ce texte en famille. De Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Oui, je vous encourage, mes frères et sœurs, vous qui avez des enfants chez vous à la maison, de prendre cette parole, de prendre un dictionnaire et d'étudier avec eux ce à quoi correspond exactement ces mots, ce qu'ils signifient. C'est important, mes frères et sœurs, que vos enfants grandissent en sachant ces choses. Alors, il nous est dit qu'à la fin des temps, les hommes auront l'apparence de la piété. Et je serais très curieux que beaucoup de chrétiens expliquent ce qu'est la piété. C'est important de savoir ce qu'est la piété. Ça m'est souvent arrivé d'utiliser ce mot dans des églises et d'entendre des gens dire « C'est quoi la piété ? C'est quoi ? C'est quoi la piété ?» Des gens qui ont des années de conversion. Mais c'est quoi la piété ? Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle jamais. Et la piété, je voudrais ce matin vous en parler pour que vous sachiez si vous avez l'apparence de la piété ou si vous avez une véritable piété. Est-ce que c'est important ? Eh oui, c'est important. Vous ne devez pas savoir, vous devez savoir si oui ou non vous avez une véritable piété, ou si vraiment vous n'avez que l'apparence de la piété. Jésus a dénoncé souvent l'hypocrisie des religieux, des pharisiens, expliquant, mais vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Et cette image revient très souvent dans les Écritures, où nous voyons que des chrétiens ne sont pas soucieux d'avoir cette véritable piété. À cause de ces comportements qui révèle véritablement l'état spirituel de la personne. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Alors c'est quoi l'égoïsme ? C'est quoi l'égoïsme ? C'est quoi ? Si votre fils vous dit ce soir, tiens, papa, monsieur Go, il a parlé de l'égoïsme, c'est quoi l'égoïsme ? Qu'est-ce que c'est, papa, l'égoïsme ? Qu'est-ce que vous répondriez ? C'est quoi l'égoïsme ? On ne pense qu'à soi, on ne pense plus aux autres. Ça, c'est l'égoïsme. Et hélas, cet égoïsme, Jésus en parle pour les chrétiens. L'égoïsme, on pense qu'à soi. Et je parlais des droits et des devoirs. On entend aujourd'hui, c'est mon droit. J'ai droit à ça. Quelqu'un qui commence à travailler, c'est quels sont mes droits. C'est terrible. Par contre, il y a des gens qui ont le cœur altruiste, qui est l'inverse de l'égoïsme, qui eux disent, non, quel est mon devoir? Moi, je suis heureux quand j'entends quelqu'un qui me dit, c'est mon devoir. Quand une femme dit, c'est mon devoir de m'occuper de mes enfants. C'est mon devoir. Et mes frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, nous devons faire attention, car ce qui va provoquer l'apparence de la piété, c'est que les gens ne seront plus se donner. Alors c'est vrai que notre frère, lorsqu'il faisait chanter ce dernier cantique, disait, on va parler peut-être dans la prédication de la mort à soi-même. Mais il est certain que quelqu'un qui a une vraie piété, c'est quelqu'un qui est mort à soi-même, qui ne veut plus faire sa volonté, mais qui veut faire la volonté du Seigneur. L'égoïsme, c'est quelque chose de terrible. Je lisais hier, je ne sais plus où, un pasteur qui était dans une église de 300 membres, donc presque aussi grande que la nôtre. Et ce pasteur a entendu le pasteur de l'église lui dire « On a été obligé de payer une femme de ménage pour faire le ménage dans l'église. » Voilà. 300 membres, pas une personne qui s'est désignée pour faire le ménage dans l'église. Ça vous montre la dangerosité de cet égoïsme qui est en train de s'installer dans les églises. Les gens ne se donnent plus. Et alors, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est pour ça que nous devons absolument, si nous voulons être prêts, c'est pour ça que j'ai dit, mais dites amen à la prière de Monsieur Dubois. Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts parce qu'ils n'auront que l'apparence de la piété. Ils ne seront pas prêts parce qu'ils auront renié ce qui fait la force de la piété. Et ce qui fait la force de la piété, on va le voir, c'est cette crainte de Dieu, c'est cet amour de Dieu, ce désir d'être avec lui. Ce matin, je lisais le psaume 63, quand le psalmiste dit « Mais mon âme est attachée à toi ». C'est beau cette image. « Mon âme est attachée à toi ». On voit cet homme, et pourtant il est dans le désert, il cherche Dieu, c'est David, mais il va dire « Mon âme est attachée à toi ». Il a fui, il sait très bien que ce n'est pas en fuyant, que ce n'est pas en demandant le secours des uns et des autres. Il a essayé le secours chez les Philistins. Enfin, vous connaissez l'histoire de David. À un moment donné, stop, mon âme s'attachera à Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui me délivreront, c'est Dieu qui me délivrera. Une véritable piété, c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à Dieu. Et je vous pose la question, je nous pose la question, est-ce que nous sommes dans cet état d'altruisme, dire mais ce qui est important, c'est les autres. C'est Washmani qui a dit, une vie consacrée à Dieu est une vie livrée aux autres. Et j'entends parfois, ah non, moi j'ai pas le temps, ah non, moi c'est pas le temps, il y a le judo pour le petit, il y a le tennis. Béni soit Dieu si vous pouvez payer le judo à votre gosse. C'est une bénédiction. Enfin, je ne suis pas contre. Est-ce que c'est une bénédiction de pouvoir payer le tennis à ses enfants? Oui ou non? Est-ce que c'est bien? Mais oui, c'est bien. Mais quand ces choses-là vous empêchent de servir Dieu, moi, je trouve que ce n'est pas bien du tout. Et nous sommes arrivés dans ce stade où nous voulons la détendre. Les gens, il faut qu'ils se détendent. Ah, moi, j'ai besoin de me détendre. Mais ils ne se rendent pas compte combien ils sont devenus égoïstes. Et pensez à dire, c'est mon devoir. Je pense à ma mère qui est décédée il y a 3 mois et qui disait souvent, c'est mon devoir. Il faut que je le fasse, c'est mon devoir. Je n'ai jamais entendu ma mère dire, j'ai droit à ci ou j'ai droit à ça. Je l'ai entendu toute sa vie, c'est la vérité. Dire, c'est mon devoir. Il faut que je le fasse. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille prier. C'est mon devoir. Elle le faisait. Moi, au début, je ne comprenais pas trop. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre qu'on avait appris certaines choses aux anciens qu'on n'apprend plus aujourd'hui à nos enfants. L'amour de l'argent. Vous savez, vous connaissez ce proverbe. Moi, c'est un proverbe qui m'a poussé à aller voir le pasteur parce que je ne comprenais pas trop. La sangsue a 2 filles. La première s'appelle Donne et la deuxième s'appelle Donne. Et ce n'est pas bon signe quand les gens disent « j'ai besoin de ci, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Mes frères et sœurs, voilà ce que c'est l'apparence de la piété. Je suis incapable de me donner. Vous voyez, on parle des enfants. Combien nos enfants ont besoin de se retrouver ensemble? C'est important. Est-ce que c'est bien que nos enfants se réunissent ensemble? L'autre jour, Isabelle avait réuni tous les ados à la maison, elle a préparé un goûter, etc. Et les ados étaient ensemble, ils parlaient, on a prié ensemble. On a ri ensemble, on a parlé ensemble. Moi, je crois que c'est important. Est-ce que ça vaut la peine de se donner pour nos enfants? Et si nous ne nous en occupons pas de nos enfants, si nous ne les aidons pas, si nous ne nous les entourons pas, s'ils ne se retrouvent pas pour s'amuser ensemble entre chrétiens, eh bien laissez-moi vous dire qu'eux, ils iront chercher du plaisir ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour comprendre ces choses. Nous devons veiller les uns sur les autres, mes frères et sœurs. La piété, avoir une véritable piété. Amis de l'argent, vous savez, ce matin, j'ai donné une prophétie. Et j'ai failli monter sur l'estrade après, parce que j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Je ne l'ai pas dit. Est-ce que Dieu a permis pour que je le dise maintenant? Je ne sais rien. Mais c'est grave, parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait quelqu'un dans l'Église qui a volé Dieu. Écoutez-moi, ça me gêne, bouillonnant de le dire, mais la personne, j'espère qu'elle se sent repris. Quelqu'un qui a volé Dieu. Vous savez, notre argent, merci Seigneur pour nos salaires, mais est-ce que vous savez qu'on peut voler Dieu? Si vous avez du mal à me croire, je poursuivrai en aparté cette discussion et je vous montrerai les textes que l'on peut voler Dieu. Et tout cela, c'est dans le même sens. Amis de l'argent, alors ça c'est sûr qu'on aime l'argent. Moi je bénis Dieu pour le salaire. Est-ce que vous bénissez Dieu? Est-ce que vous bénissez pour votre retraite, pour votre salaire? Est-ce que c'est une bénédiction? Ben oui, c'est une bénédiction. Est-ce que vous vous rendez compte? Toutes les faveurs que l'on peut avoir. Et Dieu dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mais il faut faire la différence entre ce que Dieu nous donne pour que nous en jouissions et ce que Dieu veut que nous lui donnions pour que son œuvre soit faite. Et ça, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que quelqu'un qui a mis de l'argent, vous voyez, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Moi, j'aime certains plaisirs. Moi, j'aime. Il y a des choses, par exemple la sieste, moi, c'est un plaisir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, mais je vous le dis, c'est un bienfait la sieste. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'aime ça. Je considère, quand je peux faire la sieste, que le téléphone ne me dérange pas, je considère cela comme un véritable bienfait. On peut avoir certains petits plaisirs que la vie nous accorde, que nous nous accordons, mais faisons attention que le sommeil ne nous assoupisse pas complètement et nous empêche de faire la volonté de Dieu. L'amour de l'argent, ami de l'argent, c'est un des signes de la fin des temps. Et c'est peut-être dû au fait que comme il y a la crise, il faut faire attention, il faut épargner. Est-ce que c'est bien d'épargner, tiens, au fait? Est-ce que c'est bien? L'argent, c'est un sujet délicat. Est-ce que c'est bien de faire des économies, d'être économe? Est-ce que c'est bien d'être avare? Eh bien voilà. Eh bien voilà, mais ce n'est pas plus compliqué. Est-ce que je suis économe, que je fais attention, ou est-ce que je suis avare? Pour être avare, il n'y a pas besoin d'être riche. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour être avare. Être économe, moi je trouve que c'est intelligent, avoir une petite réserve. La loi des réserves, elle est profondément biblique en plus. Donc, on peut être sûr de ce qu'on avance. Mais l'avarice, c'est quelque chose qui fait que je ne sais pas donner, je n'arrive pas à donner ce que je dois donner, ce que je devrais faire. Moi, je trouve que c'est important. Madame Bordeneuve m'appelait encore cette semaine pour me dire, est-ce que vous ne pourriez pas nous donner telle et telle somme parce qu'on a besoin pour un conteneur, etc. J'ai dit, mais on va voir avec le conseil et j'espère qu'on va pouvoir le faire. Mais parce que l'Assemblée a une vision et si on n'a pas de vision, on reste recroquevillé, on reste là, on ne se rend même pas compte qu'on est là tout le temps, donne, non, je ne fais rien. Je ne me donne pas, je crois qu'on peut se donner. Et si, même si on n'a pas de l'argent, on peut se donner. Je parlais du ménage, je parlais de certaines choses. Vous savez, c'est Dieu qui bénit. Ne sois point sage à tes propres yeux. C'est Dieu qui bénit. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, c'est une expérience dont je suis, avec mon épouse, nous sommes forts. Parce qu'on l'a vraiment expérimenté. Quand on est rentré dans le ministère, on avait accepté le salaire, je pense qu'on était fous, je pense que j'étais pas bien. J'avais accepté un salaire de misère. À l'époque, aujourd'hui on est obligé de payer les gens le SMIC, vous savez, mais à l'époque c'était pas obligé. Donc on avait accepté le salaire que l'Église pouvait nous donner. Et à l'époque, la femme du pasteur, il fallait pas qu'elle travaille. C'était un péché que la femme du pasteur travaille. C'était pas bien. Et on a vécu dans la pauvreté, vraiment dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Si je vous le raconte, vous ne le croirez pas. Et chaque fois que le dimanche matin, la corbeille passait, j'étais malade. J'étais malade. J'étais malheureux. Je voyais cette corbeille passer, j'étais là. En plus, j'étais pasteur. J'avais pas en formation. Et un jour, ça faisait un moment que ça durait. Ça faisait 4 ans que ça durait. 4 ans que ça durait. Et un jour, je vais voir Isabelle. Je dis, écoute Isabelle, ça ne peut plus aller. Il faut que je donne. Il faut qu'on donne. Elle me dit, écoute, si on donne, on ne finira pas le mois. C'est sûr et certain. Et j'ai dit, écoute, on va donner. Et en plus, on va faire une offrande. Elle me regarde et me dit, bon, si tu le dis. Les femmes étaient soumises à l'époque. Et je fais mon offrande, et j'étais heureux comme tout. Le soir même, il y a une sœur de l'église qui avait acheté, je m'en rappelle, un ensemble à Esther, qui était magnifique, magnifique. Le mercredi, il y a un jeune de l'église qui arrive à vélo, et il vient, il reste un moment, il reste manger avec nous, je lui dis, tiens, t'as qu'à rester manger avec nous. Les repas, c'était simple, les repas chez nous. Mais quand même, on a mangé. Là aussi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup qu'il ne faut pas inviter quelqu'un. Vous savez, pendant des mois, nous mangeons des pâtes, et le dimanche, des spaghettis. Bon, j'exagère un peu, mais vous savez, c'était ça. Mais on était heureux. Ce n'est pas pour ça qu'on est... Vous savez, quand vous obéissez à Dieu, vous êtes heureux quand même. Et ce soir-là, le gars, il s'était nu, j'ai dit, viens, je te raccompagne. Et j'avais dit à ma femme, si on éclate un pneu, on ne pourra pas le changer. Ce mercredi soir, donc c'était 3 jours après... Le gars, je le ramène, je fais 200 mètres, paf, le pneu qui éclate. Et j'ai repensé à ce que je me dis, écoute Seigneur, c'est pas grave, j'ai changé le pneu, j'ai amené le gars chez lui. Et à la fin du mois, la somme qu'on avait donnée nous a été donnée 14 fois. Et à partir de ce jour-là, Dieu nous a bénis. Pourquoi je dis ça? Vous savez que c'est... Parce que je suis poussé à le dire. Je vous dis ça. Parce que, comment il s'appelle? C'est Salomon qui dit dans les Proverbes, « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Et depuis ce jour, Dieu nous a bénis. C'est Dieu qui bénit. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le croyez que c'est Dieu qui bénit? Et je vous le dis, mes frères et sœurs, parce qu'il faut... C'est vrai que c'est gênant de parler de soi, tout ça. J'aime pas en plus. Moi, je dis aux stagiaires, ne parlez pas de vous quand vous prêchez, ça ne sert à rien. Mais là, je le fais parce que je suis poussé à le faire. Pour vous dire qu'il faut faire attention à ne pas croire que c'est le salaire qu'on a qui nous bénit. C'est Dieu qui bénit. Mes frères et sœurs, veillons à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'Église? Au niveau, je ne parle pas qu'au niveau de l'argent, mais à tous les niveaux. Parce que Dieu veut que l'on soit heureux. Et justement, quand... Prenons un exemple sur la piété. J'ai plein de notes sur la piété. Parce que la Bible dit, ça c'est quelque chose que c'est chacun de nous qui devons le développer. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. La piété, ce n'est pas quelque chose que Dieu va vous donner. C'est quelque chose que vous allez développer parce que vous aurez le respect de Dieu, parce que vous aurez la crainte de Dieu, parce que vous aurez la soif de Dieu. Prenons un exemple, on va prendre quelques exemples. Dans 2 Pierre, il faut prendre les choses dans l'ordre. Je vous donnerai, si vous voulez, tous les textes sur la piété. Quoique si vous avez une concordance, vous pouvez prendre tous les textes. Il n'y en a pas tant que ça, mais en vérité, toute la Bible est un livre de piété. Ce respect profond, ça vient d'un mot latin, pietas, qui signifie le respect profond envers Dieu et envers ses parents. Vous voyez, la piété. Parce que la piété, on ne respecte pas que Dieu. Là aussi. Mais le mot piété signifie qu'on a du respect envers Dieu et envers ses parents. Vous le regarderez dans n'importe quel dictionnaire. Dans 2 Pierre, à partir du chapitre 1er, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et après à quoi? Et à la piété. C'est important ça, que nous le comprenions, ce qu'est la piété, parce que c'est à cause de ça que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. S'il y a bien une chose que les chrétiens doivent comprendre, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent lorsque nous fuyons la corruption qui existe dans le monde. Et je vous assure que pour moi, ça fait un mois et demi, je vous donne ce témoignage, ça fait un mois et demi que je n'ai pas regardé la télé. Un mois et demi, 2 mois. parce que j'ai pas envie. Bon, je peux pas, parce que j'ai pas envie. Avant-hier, je me suis dit, tiens, tu vas quand même regarder les infos. Tu vas regarder les infos. J'allume la télé, j'allume après les, à 1h05, parce que je ne veux pas voir les pubs. Et je tombe, en plus, je aurais dû m'en douter. C'était une émission sur les paparazzis. Vous savez, les paparazzis. Et il y avait un gars qui témoignait qu'il y a 30 ans, il n'aurait pas pu témoigner à visage découvert parce que c'était honteux ce qu'il faisait. Et là, il dit aujourd'hui, c'est super de faire ça. On peut l'expliquer. On peut vraiment... Ils ont fait même un reportage. Toutes les photos, ils les ont présentées dans un musée à Paris, vous voyez. Et en 10 secondes, je suis tombé sur deux photos, enfin, sur deux images d'une insanité pas possible. Et je me dis, mais comment on pourra avoir une véritable piété si, comme il est écrit, on ne fuit pas la corruption qui existe dans le monde. Et cette semaine, je discutais avec une chrétienne qui n'est pas d'ici. Elle me dit, oh, tout ce que j'ai vu à la télé, c'est affreux. Ce que j'ai vu, c'est abominable. Et j'ai dit, mais pourquoi vous le regardez? Elle m'a regardé, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je crois qu'il faut que ça soit véritablement expérimenté de fuir la corruption qui existe dans le monde. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Oui ou non? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous pouvons participer, regardez bien, au verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer à la nature divine? Quelqu'un qui, par sa vie de tous les jours, peut amener la vie de Christ dans la vie des autres. Est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, il faut fuir la corruption qui existe dans le monde. Regardez bien, on est dans la piété. À cause de cela, faites tous vos efforts. Alors, il ne faut pas faire confiance à ces efforts. Mais il faut faire des efforts. Pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée éternelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Lui aussi, l'apôtre, il avait compris la différence entre les devoirs et les droits. Vous ne serez pas oisif, vous ne serez pas stérile, vous ne serez pas là, aveugle, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, vous serez heureux, l'entrée vous sera du ciel, vous sera largement ouverte. C'est pour cela qu'il faut avoir une véritable piété. Une véritable piété, ça consiste à dire, mais ces choses-là, est-ce que c'est pas un danger pour moi? Avec quoi je construis? Avec quoi je construis ma vie? Quelqu'un a dit, la vie, c'est comme un billet de banque. Vous pouvez le dépenser comme vous voulez, mais vous ne pouvez le dépenser qu'une fois. Et c'est une belle image. Mais comment je construis ma vie? Puisque l'apôtre Pierre a dit que chacun prenne... Paul, c'est Paul qui l'a dit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que nous pouvons construire avec du foin, de la paille ou du chaume, ou que nous pouvons construire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses qui représentent les choses que Dieu nous demande. Si on n'a pas une véritable piété... On ne fera rien. On ne fera rien pour Dieu. Mes frères et sœurs, voulez-vous rester là lorsque le Seigneur Jésus va revenir? Voulez-vous avoir juste l'apparence de la piété? L'apparence de la piété, pour avoir l'apparence de la piété, il faut aller à l'église, il faut lire sa Bible un peu, il faut prier un peu. Vous, comme je l'ai déjà dit, vous vous promenez avec la Bible sous le bras, vous dites « c'est un chrétien ». Ben oui, c'est pas parce que vous dites « c'est un chrétien » que c'est quelqu'un qui a une véritable piété. Est-ce que c'est important pour vous que vous sachiez si vous avez une véritable piété? Mais vous devriez tous répondre oui. Est-ce que c'est important que vous sachiez si vous avez l'apparence de la piété ou une véritable piété? Car hélas, ça me brise le cœur. Mais je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété. Ils aiment la corruption, ils aiment le monde. La Bible dit que celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Que si l'amour du monde est en vous, l'amour du Père n'est pas en vous. Ce sont des choses qui devraient nous faire réfléchir. Je ne parle pas des choses nécessaires qu'on a besoin, j'en ai parlé l'autre jour. Je parle des choses de la mentalité du monde. Comme je l'ai dit, il faut choisir entre l'heure de tennis et la réunion de prière. C'est vite choisi. C'est vite choisi, croyez-moi, pour beaucoup de chrétiens. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. La grâce, parlons de la grâce. La grâce est extraordinaire, la grâce. Mais la grâce, à quoi ça sert la grâce? À quoi ça sert la grâce? À quoi ça sert? C'est une couverture qui nous permet de dire, moi je peux faire ce que je veux, Dieu pardonne tous les péchés, je ne peux pas perdre le salut. Regardez avec moi dans 2 Pierre. 2 Pierre, non c'est 1 Pierre. C'est pas Pierre, c'est Tite, pardon, Timothée, Tite. Excusez-moi. Timothée, Tite. Timothée, chapitre, Tite, chapitre 2, verset 11. 11, 12 et 13. Ce sont des textes, c'est des textes qui nous parlent sur la piété. Comment je vis ces choses? Quelle est... Vous savez, les vierges sages, qu'est-ce qu'elles représentent? Les vierges folles, qu'est-ce qu'elles représentent? Des chrétiens qui n'ont pas de piété, c'est tout. Elles n'ont pas d'huile, elles n'ont pas de réserve parce qu'elles n'ont pas de communion. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu... Vous y êtes? Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la grâce de Dieu? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, je dis bien dans le siècle présent, aujourd'hui, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à vivre selon une véritable piété, comme Noé, qui avait décidé de marcher avec Dieu en son temps. C'est écrit dans la Bible, il marchait avec Dieu en son temps. Pourtant, dans le temps de Noé, laissez-moi vous dire que marcher avec Dieu, ce n'était pas facile. La terre était remplie de violence. La pensée du cœur des hommes se portait chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue et pleine de violence. Et Noé avait décidé de marcher avec Dieu dans son temps. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé. Et si de la même manière, nous disons, oui, la grâce de Dieu, ça m'enseigne à vivre selon la piété dans le siècle présent, oui, aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'on peut marcher avec Dieu, on peut obéir à Dieu, avoir une véritable piété. Les vierges folles, voilà, Jésus en a parlé, nous on ne les aurait pas appelées folles, nous on les aurait appelées négligentes peut-être, pour ne pas trop les vexer. Jésus dit qu'elles sont folles, parce qu'on est complètement fou lorsqu'on ne veut pas avoir des réserves, de l'huile en réserve, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. On ne sait pas. Si Jésus revient ce soir, vous allez me dire, bon, mais ça va. Mais vous ne savez pas où Dieu va vous amener, les bénédictions que vous allez avoir, les épreuves que vous allez traverser. Vous savez, des fois, on dit, oh, il y a des gens qui quittent Dieu dans l'épreuve. Mais dans l'épreuve, il y a des gens, quand ils sont bénis, ils abandonnent Dieu aussi vite. Le problème, ce n'est pas d'être béni ou d'être éprouvé. Le problème, c'est d'avoir une vraie piété. Parce que quand vous avez une vraie piété, que vous soyez béni ou que vous soyez éprouvé, eh bien, vous restez fidèle au Seigneur. Et cette vraie piété, c'est ça, c'est ce respect. On respecte les parents. Moi, je ne sais pas, vous avez encore vos parents? Est-ce que vous avez vos parents, certains? Est-ce que vous avez vos parents? C'est une grâce d'avoir des parents, non? Est-ce que vous... Mais on les respecte, les parents. Moi, je disais l'autre jour à mon fils, je ne sais plus à qui je disais à mon fils, mais moi, mon père, il me donnerait une gifle, et je ne dirais rien. Tu entends? Tu as compris le message? Mais est-ce que c'est vrai? Les anciens qui étaient là, est-ce que vous auriez eu l'idée, si votre père vous avait donné une baffe, de la lui donner? Quand on voit aujourd'hui les enfants qui tapent leurs parents, non mais, c'est pas grave, il est nerveux. Vous allez voir comment être nerveux à 15 ans. Et les gens sont complètement malades. Parce qu'on n'enseigne pas le respect, on n'enseigne pas à nos enfants, on n'enseigne pas aux chrétiens. Et mes frères et sœurs, si nous voulons être prêts, il faut une véritable piété. Et la véritable piété, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose de théologique, c'est quelque chose qui s'apprend quand on aime Dieu, quand on désire être avec lui, quand on choisit véritablement d'avoir une communion avec lui. Paul dit à Timothée, il dit pas à Timothée, écoute, prêche vachement bien, c'est très important. Non, exerce-toi à la piété. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Vous savez que Dieu a des promesses maintenant, présentement. Vous voulez les promesses que Dieu a pour vous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, c'est pas plus, vous le savez. Exerce-toi à la piété, elle a la promesse de la vie présente. Les promesses que Dieu a préparées pour nous dans le présent, elles s'accomplissent lorsque vous exercez à avoir une véritable piété. Et tous ces qualificatifs, tous ces comportements que j'ai cités tout à l'heure, mais moi je vous encourage à le faire en famille. Vraiment, prenez un dictionnaire quand même, je pense que ça doit être une bénédiction. Ou est-ce qu'encore je vais entendre quelqu'un qui va me dire à la fin du culte, ah, moi monsieur Gauche, j'ai pas le temps de consacrer 10 minutes à prier avec mes enfants, à lire la Bible avec mes enfants. J'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez avoir le culot de dire ça à Dieu, de vous présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, j'ai pas le temps? Est-ce que quand vous allez vous placer devant Dieu, vous allez dire, écoute, Seigneur, j'ai pas eu le temps de prier avec ma femme, j'ai pas eu le temps de prier? Est-ce que quelqu'un pourra dire ça à Dieu? Est-ce que c'est possible que quelqu'un dise ça à Dieu? Mais non, c'est impossible. Alors, mes frères et sœurs, ayons cette grâce de dire, mais moi je vais m'exercer à la piété, je vais veiller à ces choses. Tiens, avec mon épouse, on va lire ce soir ce texte, et on va vérifier, est-ce qu'on est ami de l'argent? Est-ce qu'on est fanfaron? Vous regarderez dans la Bible, dans le dico, ce que ça veut dire, fanfaron. Vous savez ce que c'est être fanfaron? Ce que moi je dis, c'est bien. Ce que moi je dis, c'est important. Ben, les autres, c'est secondaire, bien entendu, puisque moi je suis meilleur qu'eux. Vous regarderez, c'est à peu près ça. Mes frères et sœurs, mettons-nous en dessous des autres, vraiment en dessous des autres. Portons-les dans la prière. Combattons le bon combat de la foi. Oui, pensons aux autres, mes frères et sœurs. Vous savez, tous les dimanches, quand je viens sur cette estrade, je pense à la grâce que l'on a d'avoir un lieu de culte où on n'est pas en danger. J'écoutais un témoignage cette semaine d'un pasteur. Écoutez bien. Un pasteur, son église a été plastiquée 14 fois. Lui, à quatre reprises, on lui a tiré dessus. Quatre reprises. Il a une balle même dans l'épaule qu'on n'arrive pas à lui enlever. Son frère s'est converti. Il a été assassiné par sa famille. La semaine où il donnait ce témoignage, quand il donnait ce témoignage à l'église, deux jeunes filles de l'église s'étaient converties. Elles avaient été retrouvées égorgées dans leur chambre. Et il disait, nous, chaque fois qu'on va à l'église, on ne sait pas si on rentrera à la maison. Et il a passé plusieurs jours en France, et dans l'église où il était, l'église était vide. Les gens étaient là au culte, mais à la prière, et cet homme, il a pleuré avec le pasteur. Parce qu'il dit, mais nous, en Israël, être chrétien, ça nous coûte tous les jours quelque chose. Vous, ça ne vous coûte rien. Vous n'allez même pas à la prière. Alors, je ne dis pas ça. Ne pensez pas un instant que c'est pour vous dire d'une manière insinuée, venez mardi à la prière. Franchement, ça serait grave. Mais c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes bénis. On est bénis, c'est vrai ou non? Est-ce que vous avez eu du mal ce matin? Oh, j'ai pas pu me garer. C'est ça votre persécution, de ne pas pouvoir vous garer? Sérieusement, je pense que le Saint-Esprit, on a pu l'attrister bien souvent. Une vraie piété. Ce saint respect de l'œuvre de Dieu, ce saint respect des frères et des sœurs, ce soutenir son pasteur. Est-ce que vous me soutenez dans la prière? Vous savez, je dis ça parce que je ressens dans mon cœur qu'il faut que vous me souteniez. Est-ce que vous me soutenez dans la prière? Est-ce que vraiment vous suppliez Dieu de faire de moi un homme de Dieu? Est-ce que, Seigneur, la semaine dernière, il y a un frère qui ça m'a beaucoup touché. Vous voyez, le vote, il y a eu 81% et quelques, ça ne m'a pas touché, moi, le vote. Mais qu'un frère me dit, monsieur Gaud, une nuit, je me suis réveillé de 2h à 3h du matin. J'ai eu à cœur de prier pour vous. Ça m'a touché. Ça, je peux vous dire que ça m'a touché. Parce que l'Église, elle sera dans la victoire à partir du moment où les frères et les sœurs nous prieront les uns pour les autres. Et je repense à ce pasteur de, je crois qu'il est de Bethléem, ou de, je sais plus, ou de Jérusalem. Mes frères et sœurs, nous, ça ne nous coûte rien d'être chrétiens. Franchement, dites-vous, qu'est-ce que ça vous coûte ? Qu'est-ce que ça nous coûte d'être chrétiens ? Quelques moqueries au boulot, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, t'es chrétien, t'es... » C'est ça que ça nous coûte ? Il y a des gens qui ont abandonné Dieu, parce que le lundi au boulot, on leur a dit « Où t'étais hier ?» J'étais à l'église. « Ah, regardez-le, le bigot, il va à l'église. » « Ah, moi, je me suis aussi, c'est pourquoi on se moque de moi ? Je ne vais plus à l'église. » Je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. C'est pour vous montrer que la piété, il faut qu'elle soit profonde. Une vraie piété. On va terminer avec un texte dans Osée. Il y en a des textes sur la piété. Dans le prophète Osée, le Seigneur parle. Il parle de la piété d'Éphraïm. Osée, prophète Osée. C'est après les grands prophètes, vous savez, Ézéchiel, Daniel, Osée. Parce qu'il y en a qui vont avoir du mal à le trouver parce que c'est des petits prophètes. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Le Seigneur pose une question. Cette question, moi, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que ça nous prouve qu'à un moment donné, Dieu ne peut plus rien faire. Osée chapitre 6. Dieu ne peut plus rien faire parce que tout ce qu'il fait, eh bien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Regardez, Osée chapitre 6, verset 4. Que te ferais-je, Éphraïm ? Que te ferais-je, Judas ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Vous avez vu ? Au verset 6, « Car j'aime la miséricorde » ou la piété, suivant les versions. « J'aime la miséricorde ou la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et plus loin, on voit que ceux qui... Voyez, on va lire le verset qui nous intéresse quand même. Au chapitre 9, au verset 16, c'est une explication. Osée chapitre 9, verset 16, « Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits. » Voilà le résultat. Il n'y a pas de racines. Parce que la piété, c'est des racines. C'est une vie de communion avec Dieu, seul avec mon Seigneur. Je cherche sa face, il me parle, il me renouvelle, il me dit quelque chose, il me rappelle une promesse, il me rappelle un commandement. Mais là, on voit un Seigneur qui est obligé. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir encore te faire ? Quel moyen de discipline je vais devoir utiliser pour pouvoir te parler ? Que te ferais-je, Éphraïm ? Que te ferais-je, Judas ? C'est Israël, c'est l'image de l'Église. Ta piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Vous savez, quand on prend la voiture l'été, là, vous avez un brouillard pas possible sur la route, et dès que le soleil se lève, vous avez remarqué, vous prenez la voiture à 6 heures du matin, il y a un brouillard pas possible. Dès que le soleil se lève, le brouillard, il disparaît. C'est ce qu'est en train de dire. Ta piété, elle est comme le brouillard en été. Dès que le soleil se lève, dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'il y a un petit truc qui te contrarie, paf, tu n'as plus de piété. Et le verdict, il est là, t'as pas de racines. Et mes frères et sœurs, si nous voulons être prêts quand Jésus va revenir, il faut que nous ayons des racines. Il ne faut pas que nous ayons juste une assemblée où nous nous retrouvions de temps en temps. Il faut que chacun, nous entretenions une vie de communion. Exerce-toi à la piété. Et Dieu compare justement dans Timothée le chrétien à un coureur, à un athlète qui vraiment se donne à fond. Vous avez vu les athlètes, ils sont capables de s'entraîner 8 heures par jour pendant 4 ans pour courir 30 secondes. Vous le savez ça. 8 heures par jour pour courir une minute. Pour gagner une couronne, un truc, enfin, qui ne serait pas grand-chose. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Et la Bible dit, mais l'athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et vous lirez Timothée chapitre 2, le chrétien est comparé à 7 choses dans le chapitre 2. Et surtout un vase. 7 choses, 6 qui se donnent, parce qu'il faut donner et se donner. Un laboureur, il sème, un athlète, il se donne, un soldat, il est discipliné avec les autres, etc. Et après, il parle d'un vase. Dans une maison, il y a des vases en or et il y a des vases en argent. Il y a des vases vils, il y a des vases utiles. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase utile. C'est pourquoi Timothée recherche la piété. Recherche la piété. Et tout ça, quand vous lisez la Bible, eh bien, c'est pas compliqué. Vous prenez n'importe quel texte, ça doit vous informer. Bien sûr, vous n'allez pas lire tous certains textes, comprendre tous les textes, mais vous lisez un texte, je ne sais pas, moi, vous allez lire, allez, je prends un au hasard dans ma tête. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça ne vous encourage pas, ça? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font leur demeure dans votre esprit parce que vous aimez vraiment la parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Alors mes frères, développons cette véritable piété. Cette piété, elle va amener la bénédiction dans l'Église. Elle amènera toutes les promesses que Dieu a pour vous. Elles s'accompliront. Vous savez, moi je ne suis pas du style de pasteur à élever les promesses. Mais quand même, une chose est certaine, lorsque quelqu'un s'exerce à la piété, il découvre les promesses que Dieu a pour lui aujourd'hui. Et je vous disais tout à l'heure que Dieu a exaucé la requête de Maëva, en fin de compte, pour qu'on aille en Polynésie. Mais je crois que Dieu entend toutes les prières. Vous le croyez? Quand vous avez une véritable piété, quand vous développez une véritable piété, vous savez que rien ne peut faire obstacle à vos prières quand elles sont dans la volonté de Dieu, bien entendu. On ne va pas demander n'importe quoi, ça serait ridicule. Mais on demande des choses qui sont conformes et qui correspondent à la volonté de Dieu. Oui, exerce-toi à la piété, elle a la promesse de la vie présente. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Ayons une véritable piété. Ce texte, je ne l'ai pas développé dans 2 Timothée. Faites-le vous-même avec vos enfants. S'il vous plaît, faites-le. Ayez cette joie de prier avec vos enfants. Marquez vos enfants. Vous savez, il y a des enfants qui vous disent, « Moi, mes parents, ils font que se disputer. » Mais oui, mais ils ne sont pas chrétiens. Si, si, monsieur Gou, ils sont chrétiens. C'est ça que nos enfants voient dans les églises. C'est ça qui va leur donner envie. Vous ne croyez pas que c'est mieux de voir un enfant de 3 ans quand il voit son papa à genoux à côté de lui, à son lit? Vous ne croyez pas que c'est mieux? Vous ne croyez pas qu'un enfant il peut être marqué par la piété de ses parents? Moi, les témoignages que j'ai entendus, je ne sais plus qui me disait l'autre jour. Oui, c'est un frère qui me disait, ils ont posé la question aux enfants de l'école du dimanche. Quelle version vous avez eue? Il y a un enfant qui a dit, moi, la version que j'ai eue, c'est la version de mes parents. C'est un gosse qui s'est converti parce qu'il a vu ses parents vivre l'Évangile. Il dit, moi, la version que j'avais, c'était la version de mes parents qui vivaient l'Évangile. Mes frères et sœurs, vivons l'Évangile. Vivons là. Là, c'est facile. Là, c'est facile, j'espère. Mais cet après-midi, tout à l'heure, demain au boulot, quand des gens vont peut-être se moquer de vous parce que vous êtes chrétien, et alors on s'est moqué de moi, dit Jésus, on se moquera de vous. Un chrétien derrière moi dit à un autre, ah moi je supporte pas l'injustice. Mais mes frères et sœurs, Jésus, il a été maltraité et il ne disait rien. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été insulté. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il s'en remettait à celui qui juge. Si vous dites, je ne supporte pas l'injustice, eh bien vous pouvez arrêter d'être chrétien. Ça, ça ne marchera pas. Parce qu'un chrétien, il est tout le temps en train de subir des injustices. Et il doit l'accepter et dire, Seigneur, toi, tu me feras justice. Heureux ceux qui ont une fin de justice, ils seront rassasiés. Mais si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, vous inquiétez pas, il le fera quand il le voudra. S'il veut le faire plus tard ou dans les cieux, faites-lui confiance. Faites-lui confiance pour toutes les injustices que vous avez subies. Vous en avez subi des injustices? Vous croyez que si Dieu dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils sont rassasiés », ben ça veut dire que toutes ces injustices, elles seront réglées. Alors, mes frères et sœurs, développons une véritable piété. Si on n'a que l'apparence de la piété, quand Jésus reviendra, beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. Moi, c'est une chose qui me brise le cœur de savoir que je pourrais avoir dans l'Église des chrétiens qui ne sont pas prêts. Et pourtant je devrais déposer tout ça, parce que regardez, on a parlé de Judas tout à l'heure. Judas, c'était bien un apôtre de Jésus. Il avait un très, 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 très bon pasteur. Et vous voyez, l'amour de l'argent, ça l'a complètement détruit. On va fermer les yeux, mes frères et sœurs, pour que nous nous exercions à la piété. C'est quelque chose que vous devez faire, que je dois faire. On doit le faire avec la parole, avec la prière, avec le respect, avec l'amour, avec la soif de Dieu. Ces choses-là amèneront dans l'Église une grande bénédiction, une grande bénédiction. Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta parole et tu nous as donné ta grâce, oui. Et nous croyons que cette grâce nous permet de vivre selon la piété. Seigneur, pardonne pour tout ce qui ne te glorifie pas. Tu vois nos vies, tu vois nos foyers, tu vois nos enfants. Seigneur, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos ados. Donne-nous cette grâce de savoir ce qu'il faut faire avec eux, comment parler avec eux, comment les enseigner, comment les encourager, comment les bénir. Seigneur, oui, nous voulons bénir nos enfants tous. Tu nous vois, Seigneur, ceux qui sont à côté dans la maison en train de partager ta parole. Mais tous nos enfants qui sont peut-être grands et ceux qui ne t'appartiennent pas encore. Seigneur, oui, tu es un Dieu qui exauce. Tu es un Dieu qui bénit la piété. Tu as dit que tu préférais la piété aux holocaustes. Tu l'as dit que tu préférais la connaissance de Dieu à tous ses services. Oui, Jésus, nous ne voulons pas tomber dans l'activisme. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est avoir une véritable piété. Tu l'as dit dans ta parole aux églises que tu connaissais les œuvres d'Éphèse qui étaient plus nombreuses que les premières. Garde-nous de tomber dans une multiplication d'œuvres. Donne-nous, Seigneur, de tomber dans tes bras et de rester là avec une véritable piété qui te permettra, oui, de nous faire obtenir les promesses présentes. Seigneur, aide-nous à être ces hommes et ces femmes de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.